Durant les 6 dernières semaines, son monde s'était réduit à un espace d'environ 100 mètres carrés. Mais Oppenheimer avait appris à s'en contenter. L'horizon n'était plus qu'un triste mur passé à la chaux, tandis que le ciel était constitué d'une voûte de briques soutenue par des piliers de fer. Au-dessus de cette coupole protectrice, une tempête de feu faisait rage. Le sous-sol de la brasserie abandonnée n'avait pas été conçu pour servir d'abri antiaérien à des sans-logis comme Oppenheimer et sa femme Lisa. Pourtant, ils n'avaient pas eu d'autre choix que de s'y réfugier. Ils avaient improvisé un coin cuisine sous un soupirail, mais malgré leurs précautions, la fumée et les odeurs de nourriture n'avaient pas tardé à couvrir les relents âcres de bière. À présent, l'air était à couper au couteau. Dans le firmament d'argile qui s'étendait à une dizaine de mètres au-dessus d'eux, n'apparaissait ni soleil ni étoile. Même si les aiguilles de la montre d'Oppenheimer trottaient encore, le temps avait perdu toute signification. Seuls quelques indices permettaient de deviner qu'au-delà de la cave, les jours continuaient de se succéder. Par moments, une clarté diffuse se glissait par les soupiraux, et quand les lampes du plafond s'allumaient, on pouvait être sûr que le jour se levait. Oppenheimer ne les avait pas éteintes, car le courant n'était rétabli que de manière sporadique. En général, la centrale électrique de la capitale ne fonctionnait qu'à l'aube. Le soir, c'était l'heure des sirènes, dont on entendait les hurlements jusque dans la cave. Elles retentissaient pour annoncer le raid quotidien des avions alliés à la faveur de la nuit. Les fondations de la brasserie ne tarderaient pas à trembler de nouveau sous les bombes. Mais Oppenheimer se sentait plus en sécurité entre les tonneaux de bière qu'au milieu d'une foule effrayée dans un bunker public. Et l'endroit était un bien meilleur abri que la cave de la maison juive où on l'avait forcé à vivre durant de longues années. Les alarmes et les bombes n'étaient pas les seuls bruits témoignant de la guerre. Depuis plusieurs jours, le vent d'Est portait des grondements d'artillerie. Même si Oppenheimer avait hâte d'être délivré du joug national-socialiste, la perspective de voir Berlin transformé en champ de bataille lui faisait peur. Sans radio, il n'avait plus aucun moyen de savoir ce qui se passait sur le front. Ce matin-là, il y avait du courant, et la lumière artificielle des lampes l'avait réveillé. Près de lui, Lisa dormait encore. On distinguait à peine les contours de son corps, car elle était enveloppée elle aussi dans des couvertures pour se protéger du froid humide. Ils avaient agencé un lit branlant, constitué de caisses en bois, pour éviter de coucher sur le sol de béton. Oppenheimer se redressa sur ses coudes. Puis, quittant son grabat constitué de plusieurs couches de haillons, il frotta son dos endolori en grimaçant. Aussitôt, le froid s'insinua sous sa veste et un frisson lui parcourut l'échine. Drapé dans sa couverture, Oppenheimer s'approcha du feu agonisant pour remettre du charbon. Une fumée âcre lui piqua les yeux, mais la sensation de chaleur le fit soupirer d'aise. Durant l'une de ses inspections, il avait trouvé le précieux combustible dans la chaufferie de la brasserie. Il dut se retenir pour ne pas jeter plusieurs morceaux dans le feu renaissant. Malgré le froid, il devait se chauffer avec parcimonie. Il serait contraint de rester dans ce refuge jusqu'à la reddition de la ville. Et Dieu seul savait combien de temps dureraient les combats.